Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y les gars.
J'adore sortir. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez-y, chez vous, sortez.
Oui, alors oui. Franchement, c'est trop chouette. C'est trop intéressant. Allez-y quoi.
Sortez. Vous voulez sortir?
Écoutez,
sortez.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sors !
Il est 16h sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM. Vous écoutez l'émission Sortez, mais aujourd'hui, malheureusement, pas de binôme. Samuel, mon coéquipier, est parti en jour de congé. Voilà. Donc, il n'est pas là aujourd'hui, mais il revient très vite pour l'émission de mardi. Et comme ça serait un supplice pour tout le monde si je faisais une émission d'une heure à parler toute seule, du monde est bien évidemment autour de cette table. Je suis contente donc de pouvoir recevoir aujourd'hui Clarent et Nathan du groupe Moon Backstage, groupe de rock psyché garage, et j'espère qu'ils me reprendront si j'ai tort, qui puise ses origines à Tours. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Comment les micros sont éteints?
Yo.
On se disait bonjour, voilà, comment ça va?
Bah ça va, hein, ça va.
Ça va un peu.
On est censuré, mais ça se passe pour l'instant, tranquille.
Donc votre premier album Echo Process est sorti début avril, ça fait un mois qu'il est disponible, et demain, le samedi 10 mai, une date au Temps Machine donc pour la release partie.
Tout à fait, on est hyper contents.
Et alors, voilà. Si vous le voulez bien, on commence par un peu de storytelling. Donc le groupe il s'est formé en 2017 et est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter donc, comment vous vous êtes rencontrés et vos débuts en tant que groupe?
Eh oui, allons-y. Et ben en fait avec Nathan, on était dans la même classe au lycée en seconde, je pense qu'on a commencé à en première. Peu importe en réalité, et en fait on a commencé à faire de la musique tous les deux au lycée directement. J'ai rencontré Basile par une donc Basile qui est guitariste chanteur dans le groupe par une amie. Et on s'est dit qu'on allait faire un truc tous les trois, voilà.
C'est ça. Et après, de fil en aiguille, en fait, on a répété en trouvant un autre bassiste, enfin un bassiste du coup Pedro, dans une répète clandestine, entre guillemets, qui s'est faite dans notre lycée Jacques de Vaucanson à l'époque. Et ça s'est créé à partir de là.
Enfin, le clandestin de Vaucanson.
C'est ça un peu. Et vraiment, on a fait vraiment une répète tous les quatre et on était partis en fait toutes les semaines. Et on s'est jamais arrêté. C'était pas prévu hein, de faire un groupe qui durerait, hein, mais...
Bah, c'est que nous, on sortait d'un truc un peu chill aussi avec Nathan, un groupe qui avait pas trop d'enjeux. Donc je pense qu'on était un peu dans la même dynamique, en vrai. Ouais. Mais en fait, ça a duré, quoi. Et puis ça fait déjà un bout de temps.
8 ans.
Ouais.
Donc ça s'est fait assez spontanément.
Ouais,
grave.
Carrément.
Et la bonne équipe a fait que ça a continué.
Bah oui, hein. Enfin, c'est toujours les 4 mêmes personnes depuis le début du groupe, quoi. Après, on a appris à être potes, on est même devenus méga potes. Et je pense que c'est ça aussi un peu le ciment de la formation. C'est que même face aux intempéries un petit peu difficiles, à certains moments, bah, en fait, on arrive à tenir parce qu'on apprend à communiquer, quoi.
Oui, enfin, complètement.
On sait communiquer.
quelle formation musicale vous avez reçue?
Pour ma part, j'ai été à Tous en scène, j'ai fait de la guitare depuis que j'ai 10 ans, je crois. Puis je suis allé à Tous en scène après le bac. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait moi personnellement.
C'est bien, hein?
Oui, c'est déjà bien.
Très bien.
Bah oui, il faut pas dire c'est tout.
Ouais, voilà, non, mais c'est déjà pas mal. Hein.
Oui, non, mais voilà.
Parce qu'il y a en fait dans le groupe, il y a. Enfin. Bon, maintenant, on n'est plus une majorité d'autodidactes, mais Basile et moi, on n'a pas fait d'école professionnelle. Basile, il est prof d'anglais. Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur et la musique, ça a toujours été un peu à côté, mais en parallèle, on a pris des cours, etc. Donc du coup, on s'en est plus ou moins bien sorti. Et Clarent, il nous a toujours poussé à faire des trucs qu'on ne savait pas faire. Donc
oui,
on est devenu un peu
vrai.
Plus fort.
C'est vrai, vu que j'apprenais des trucs un peu alambiqués en école de musique, qui même moi me dépassaient un peu, je montrais ça aux gars et c'était un peu cool. Pour... Ouais, ça nous a appris à sortir un peu de nos acquis, quoi.
C'est ça.
Et Pedro, du coup, il a fait fac de musicaux, JMA.
C'est ça.
C'est l'idée.
C'est vraiment middle, quoi. Il y en a qui sont qualifiés et sachants, et d'autres qui sont un peu en mode on apprend, quoi. On voit ce qui se passe.
Qu'est-ce qui caractérise Moon Backstage?
Ah, bordel. C'est dur, hein.
C'est dur comme question, ça.
Ouais, c'est pas évident. Je suis d'accord.
Qu'est-ce qui caractérise? Je sais pas. Je pense, en vrai, comme on le disait, c'est déjà l'amitié. Déjà, ça peut paraître un peu pouet-pouet, entre guillemets, mais je pense que c'est assez réel. Comme on le disait, c'est le vrai ciment du groupe. Et c'est ce qui fait que ce sera toujours ces personnalités-là qui seront présentes. Je pense que dès le moment où il y aura un des membres de Moonbug qui partira ou je sais pas quoi, si ça arrive un jour, on n'espère pas, bah en fait le groupe aura plus du tout le même intérêt, plus forcément la même identité. Et c'est ça en fait le point de départ. Parce que la musique a beaucoup changé entre temps. En fait.
Après, il y a le truc peut-être purement musical de ce qui peut nous différencier. C'est que je pense qu'on essaye de... On entend beaucoup de recettes de rock qui marchent hyper bien et on essaye à la fois de s'inspirer de tout ça et à la fois, je pense, de faire... de mélanger un peu nos comment dire, toutes nos racines, tout ce qu'on, toutes nos influences. Et on essaye de pas être cliché, même si c'est, on fait forcément des trucs qui ont déjà été entendus et tout, mais on s'efforce en tout cas de faire notre truc à nous. Mmh. Et voilà, je pense que ça marche un peu.
Parce que vous parliez d'évolution, et ben ma prochaine question c'est ça. Entre la formation du groupe il y a 8 ans et ce premier album fraîchement sorti, qu'est-ce qui a évolué?
Eh ben, quand on s'est rencontrés, tous les quatre, on avait tous un bagage de rock qui était très différent. Moi, par exemple, j'écoutais beaucoup de métal, même si je suis sorti de ça très vite. Clairement, il écoutait d'autres trucs, Basile lui aussi et Pedro aussi. Et on ne se reconnaissait pas dans le rock, en tout cas. Mais le seul truc qui nous plaisait tous les quatre, ça, c'était le rap old school, façon Tribe Called Quest, The Roots, etc. Et c'est parti du coup sur un groupe de rock fusion où il y avait justement l'influence rap qui est venue. Et en 8 ans, en fait, on a appris à écouter de la musique actuelle, entre guillemets, celle locale, nationale, internationale.
Et, je vois ton t-shirt.
Oui, bah voilà, bah, notamment, voilà, c'est scène locale, hein, Jeanne et les autres par exemple. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on a découvert la zik actuelle tous les quatre au même moment. Et à l'origine, on avait vraiment des influences différentes. Et en fait, là, on a grandi tous ensemble en écoutant la même musique en 8 ans. Et c'est ça la grosse différence. C'est que maintenant, on a un bagage commun un peu plus solide et beaucoup plus actuel.
Ouais. J'ai pas grand-chose à... Si, il y a peut-être le chant qui a pas mal changé par rapport au début. Mmh. Je crois que par simplicité, par influence aussi, hein, mais par simplicité, il y avait un côté rap. On arrivait plus facilement à écrire du rap que des couplets chantés ou des refrains chantés. Et c'est un truc qui a pas mal changé, donc qui forcément change la musique, quoi.
Et donc demain, Sabotage Party au Temps Machine, à partir de 20h30. Vous partagez donc la scène avec Keg et Dewer, si je prononce bien.
Daver,
merci beaucoup.
Mais je savais pas prononcer il y a 3 semaines.
Bah voilà, merci bien. Donc Daver, pour la release partie de l'album, vous avez hâte du coup?
Ah bah ouais, en vrai.
Complètement.
Mais on a un peu peur quand même. Parce que ça fait un an qu'on n'a pas joué à Tours. Moi, par exemple, ça fait presque un an que j'ai pas joué.
Oui, c'est qu'on a fait une date sans Nathan il y a quelques mois. Nathan n'était pas là. Mais excité de ouf par la date. Et puis, il y a pas mal de changements en ce moment. Donc,
c'est ça.
On a envie de défendre de nouvelles choses sur scène, quoi.
On a sorti un beau scud. Je sais qu'il a été apprécié. Et il a mis la barre plus haut que les derniers CD, enfin les derniers EP. Donc je sais qu'on nous attend aussi un peu au tournant au niveau des lives et l'idée c'est, on est conscient de ce truc-là et là du coup ça fait vraiment un moment qu'on bosse pour faire des lives qui en valent la peine. Et là ça va être un peu le test demain, quoi. Est-ce que le groupe a autant grandi en studio qu'en live? On verra ça, mais je crois que oui.
Faut
pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais moi je vois
on
déjà.
Verra demain.
Ouais, on voit déjà. Bon, on verra.
Mais en tout cas, on fait tout pour que ce soit de mieux en mieux le live et on s'acharne un peu là-dessus. Donc, dans tous les cas, ce sera mieux que ça ne l'a été.
Ouais.
Parce que vous avez de l'expérience en live. Donc, qu'est-ce que vous aimez transmettre en concert et qu'est-ce que vous aimeriez transmettre pour ce concert demain?
Ce qu'on aime transmettre, entre guillemets, c'est toujours des. Comment dire? Une énergie qui est assez. Honnête. Moonbug, c'est. Ce qu'on a envie de se dire, en fait, c'est que Moonbug Stage, les quatre membres de Moonbug Stage, ce sont les mêmes aussi bien sur scène qu'en dehors de la scène. C'est-à-dire des potes qui s'aiment bien, il me semble.
Je confirme.
Et qui prennent du plaisir à être ensemble aussi bien pour aller bouffer une pizza chez Pia, par exemple, que pour faire de la musique sur scène, quoi.
Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'énorme mise en scène au niveau des personnalités, en tout cas.
C'est en fait d'être honnête, c'est une énergie honnête et qui est assez révélateur en fait des quatre personnalités qui jouent, quoi, qui sont propres à nous, quoi. Mm-hmm. Nous quatre, Je sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Il y avait une suite, je crois, à cette question, mais j'ai déjà oublié.
Pas mal.
Bon, vous y avez plus ou moins répondu.
Qu'est-ce qu'on aimerait défendre demain ?
Oui, c'est ça. En concert, qu'est-ce que vous aimez transmettre ? Et demain, en particulier, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez transmettre ?
Bah, au-dessus de ça, c'est aussi, comme on l'a dit auparavant, c'est un peu de prouver qu'il y a une évolution aussi au niveau du son. C'est qu'on s'est rendu compte de certaines choses, soit, je ne sais pas, par exemple, les intentions, les équilibres entre les différentes guitares, etc., etc. Le fait de faire un set qui est bien défini de A à Z. On commence avec un morceau, avec une introduction. On sait pourquoi il y a un silence après ou pourquoi il n'y en a pas. Pourquoi il y a une interlude après, pourquoi il n'y en a pas. Comment faire bien filer les morceaux les uns après les autres pour qu'on n'aille pas voir une playlist de morceaux les uns après les autres, mais un concert de Moonback, quoi. Un vrai concert.
Spectacle, quoi.
Ouais, pas
On va pas tarder donc à écouter le titre éponyme Echo Process. Juste avant de l'écouter, peut-être un petit mot dessus. Comment est-ce qu'il a été pensé, ce titre ?
Ce titre, c'est marrant parce qu'il est arrivé de façon assez bizarre. On n'était pas dans des conditions habituelles pour créer de la musique. C'était un format réduit entre lui et moi, entre Clarent et moi. Et on a réussi à créer quelque chose d'assez percussif. Mais c'est juste, on s'est dit, qu'est-ce qu'on aura envie de transmettre ? Et on s'est dit, quelque chose comme un gros duo basse-batterie, ultra percussif, ultra solide, qui sonne bien, quoi. Puis ensuite, on fait évoluer tout le reste après. Je sais que tu t'en souviens pas.
Ouais, complètement.
Je te vois.
Je n'ai aucun souvenir du commencement, mais Nathan a de la mémoire sur ce genre de truc, contrairement à moi.
Voilà.
Et alors maintenant qu'on a introduit le propos, sans plus tarder, on écoute Moon Backstage, Echo Process sur Radio Campus Tour. We'll be right back. venez d'écouter Moon Backstage, Eco Process sur Radio Campus Tour. Je rappelle que Clarence et Nathan sont avec nous pour nous parler donc de cette release party qui a lieu demain au Temps Machine. Et donc parlons du processus créatif de cet album. Dans quel contexte il s'est fait et entre vous quatre, comment ça s'est articulé pour la création?
C'est marrant parce que le contexte est un peu une revanche entre guillemets. On a sorti en fin 2023 notre dernier EP qui s'appelait Jinxed. Les conditions d'enregistrement ou même de création des morceaux ont été assez bordéliques. Hein. C'était un peu nimp, on ne savait pas forcément où on voulait aller. Et quand il est sorti, on avait vraiment, on a sorti un objet dont on était relativement fiers. Mais en fait, on savait exactement comment faire mieux. Mais absolument mieux, que ce soit tout, enfin que ce soit dans la composition, à l'enregistrement, au mixage, on savait avec qui travailler pour que tout soit beaucoup mieux. Et donc, du coup, en fait, Eco Process, il s'est créé comme ça, quoi, entre guillemets, avec une vision qui était déjà beaucoup mieux définie dès le début, même dès la création des morceaux.
Ouais, c'est qu'au moment où Jinx était sorti, on devait déjà avoir quelques idées de morceaux à mettre dans Eco Process, non? Je sais plus, oui, on avait quitté du processus créatif des morceaux, mais il me semble qu'on avait déjà pas mal de morceaux en fait, donc c'est allé assez vite après Jinx niveau composition, quoi. Puis après, on s'est bien enfermé pour arranger tout ça.
Ouais.
On s'est fait notamment, on s'est enfermé pendant une semaine où on a fait des recs avant d'aller en studio pour voir ce qui allait pas, arranger des trucs et tout.
En fait, c'était l'idée d'être vraiment prêt pour tout, quoi. Et c'est pour ça que, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment un enregistrement qui est beaucoup mieux maîtrisé. C'est un disque qui est mieux maîtrisé et c'est ce qu'on a fait de mieux jusqu'ici. Donc, moi, j'en suis 100% fier. Avec 90.
Avec qui est-ce que vous avez travaillé, collaboré sur cet album?
On est allé chez Christophe Ogoma, qui habite à côté de Nantes, à Couëron, précisément.
Ouais.
Très beau village.
Ça valait beaucoup d'enthousiasme.
Ouais, vraiment beaucoup trop. Il est super chaud, en fait. Il a un super stud et il est abordable niveau tarot, en fait. Donc, il y avait un truc de... Le mec bosse super bien, il nous a super bien enregistré, il nous avait fait le mixage de Jinxed, en fait, qu'on avait trouvé hyper chouette. Et donc, c'était vraiment... on était sûr qu'on voulait aller là-bas, quoi.
Ouais, c'était notre premier choix, sachant qu'en fait, on avait vécu le mixage, mais pas l'enregistrement. Donc, on savait que ce serait mieux avec lui, et on a fait le disque presque de A à Z avec lui. Puis ensuite, il y a eu le mastering qui a été fait par Thibaut Chaumont, qui s'occupe de plein de personnes, des internationaux, notamment Lana Del Rey, ou si bien Iti Tanita. Vraiment, deux registres absolument différents, mais c'est de voir un peu son côté un peu multitâche, quoi. C'est des personnes qui savent hyper bien travailler et qui se connaissent en plus. Ils se refilent du travail, des travaux, entre guillemets, régulièrement. Du coup, ça échange bien et ça fait des disques à plusieurs mains qui fonctionnent très très bien, quoi.
Dans votre parcours et sur ce produit fini, sur cet album, qu'est-ce que ça a apporté?
Le fait de bosser avec eux,
ouais.
En fait, il y a un peu un truc de... Vraiment, nous, on voulait un son un peu fat, un son bien vivant et bien fat, et qu'on n'avait pas réussi à voir jusque-là, en fait, en studio. On savait là que ça allait le faire avec Christophe, parce qu'on avait entendu ce qu'il avait enregistré et que c'était ça qu'on voulait, quoi, tout simplement. Je sais pas s'il y avait... Après, il nous a évidemment donné des conseils sur des trucs, mais on y allait vraiment pour avoir un son marquant, quoi, le son qu'on voulait.
Et même, je trouve que dans le parcours, et ça comment dire, par la suite, en fait, ça nous a marqué parce qu'une expérience en studio, ça nous met toujours un peu face à certaines problématiques, des problématiques de son, un son de basse ou une batterie qui n'est pas forcément calée. C'est une expérience qui est... assez difficile à vivre parce qu'en fait on voit tous les défauts d'un seul coup et donc forcément on en ressort en se disant en plus d'avoir fait un bon disque, peut-être qu'on pourra travailler ça et ça après pour que ce soit encore mieux en tant que musicien,
ouais, complètement.
Et que groupe, tout simplement.
Vous avez fait un stage précision
ouais presque hein.
De toute façon il y a de ça hein, parce que en fait quand on joue tous ensemble il y a un tas de trucs qu'on n'entend pas, on est concentré sur les parties qu'on doit jouer. C'est une fois que tout est enregistré qu'on écoute instrument par instrument avec un métronome et qu'on se dit mais c'est incroyable comme c'est pas si calé que ça au final.
C'est ça, exactement.
Et c'est que ça demande beaucoup de précision et c'est des trucs qui s'entendent pas forcément comme ça, mais en fait, si on rectifie le tir, ça peut faire la diff, quoi.
Et donc ce premier album, il succède à deux EP, Waxy et Jinxed. Et dans cette discographie qui s'élargit, qu'est-ce qui fait qu'il s'inscrit dans la continuité de ces deux projets ou au contraire qu'il marque vraiment une évolution?
Bah, je pense qu'on peut dire que c'est quand même, alors dans la purement musicalement, je pense que c'est un peu dans la continuité de Jinxed. Ça évolue, mais Jinxed avait déjà marqué une grosse rupture par rapport à Waxy. En fait, Waxy, il y a vraiment, enfin entre Jinxed et Waxy, il y a vraiment une énorme rupture musicale. Là, on est plus dans la continuité de Jinxed, bah même sur le son au final. Mm-hmm. En fait, surtout, je pense qu'on est dans la continuité de Jinxed au final.
Ouais, complètement. Je pense que Jinxed nous a donné entre guillemets. Ça nous a permis en fait de changer radicalement de style et de dire que maintenant Moonbag Stage serait différent, serait plus un groupe de rock-rap entre guillemets. Et là, on est juste allé encore plus loin dans ce qui a été fait. Mais je trouve que les morceaux sont encore plus maîtrisés dans la composition, dans la façon dont ils ont été faits. Je sais pas, je trouve qu'en fait, ouais.
C'est non ça. Mais oui, forcément, on trouve ça mieux, oui. C'est notre truc le plus frais et on est plus fiers de celui-là que de Jinxed, j'imagine. Mais
ouais.
Je pense qu'il y a quand même une continuité entre les deux, quoi.
Mm-hmm.
Et alors, musicalement, vous êtes dans le New Rock Psyché Garage.
Ouais,
vous pouvez compléter, évidemment. Donc, essentiellement en anglais. Et vous citez comme influence donc, les Australiens Psychedelic Porn Crumpets et les Anglais Shame. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces groupes et comment ça se reflète dans l'album, cette influence?
Ah, tu réfléchis, hein.
Ouais, je réfléchis parce qu'il y a d'autres influences qui me semblent encore plus évidentes. Mais,
ah ouais?
Bah, en fait, c'est que je pense que ces derniers temps, moi notamment, j'ai écouté beaucoup de trucs locaux. Enfin, genre Ranko, par exemple, c'est un de mes groupes préférés, quoi. Je trouve ça vraiment énorme. Et je trouve que Ranko se sentirait au moins autant que Psychedelic Porn Crumpets sur l'album, quoi.
Ouais.
Parce que, bah, du coup, je parle de Ranko. Pas du tout la question, en fait. Tu vois, mais je sais pas, il y a un truc un peu. Ah ouais, je sais pas trop. Peut-être dans la construction des morceaux où on a un peu piqué des. Enfin, pas piqué des trucs, mais où forcément Ranko, ça nous a influencé, quoi.
Et disons qu'il y a quelque chose dans Ranko qui est hyper, entre guillemets, brut de fonderie, on pourrait penser, hyper évident dans la musique.
Ouais.
Et pourtant, ça s'autorise des structures qui peuvent être assez alambiquées. On peut penser aux morceaux Meadows ou Monument Movement qui sont dans leur dernier album, qui, je trouve, vraiment est représentatif de ce que peut faire ce groupe-là, quoi, qui s'autorise à aller toujours plus loin avec des structures qui sont bizarres parfois, mais avec une musique qui est ultra évidente.
Ouais, super accessible, super efficace, quoi.
Ouais. Et après, sinon, bah, y a de ça, mais aussi derrière, pour répondre un peu à la question, je pense, tout ce qui est peut-être Psychedelic Porn Crumpets, c'est vraiment l'utilisation, vraiment, au niveau du son, des grosses réverbes, etc., ouais, des accords de septième... peut-être c'est plutôt emprunter certains sons, en fait, certaines sonorités plutôt.
En fait, peut-être qu'il y a un truc aussi que, enfin, Psychedelic Porn Crumpets, ça fait plus longtemps que Ranko, par exemple, sur lequel on a rebondi. Enfin, c'est vraiment très ancré dans notre digue. Donc, en fait, je relève pas certains trucs, mais quand j'y pense, en effet, dans les harmonies et les sons de guitare, il y a un truc très Psychedelic Porn Crumpets, je pense.
Et après, bah, pour Shame, pour le côté, c'est vraiment le côté post-punk anglais, quoi. Quelque chose qui peut être un peu tout droit. Ça crie dans le chant, etc. Certaines voix qui peuvent être saturées. Mais c'est toujours, en fait, c'est là où c'est difficile, en fait, justement, ces histoires de style. C'est qu'on pourrait se sentir un peu étiqueté autour, justement, d'un certain groupe. Mais ça reste des petites inspirations à droite et à gauche, sans que ce soit vraiment des inspirations évidentes. Enfin, je crois.
Oui, oui, complètement. Oui, je suis d'accord.
Ça gravite dans un univers,
quoi. C'est ça, ouais. Exactement.
Et alors, en termes de sonorité, c'est plutôt riche, c'est dense. Quel choix en termes d'instruments et d'arrangements vous avez fait pour arriver à ce résultat?
Déjà, on a enregistré en live tous ensemble, en fait. On a fait les instrus et les voix à part. Et une fois que la base était posée, les morceaux, un peu tels qu'on les avait composés, au final, étaient faits. On a rajouté beaucoup d'arrangements de grattes qui s'entendent même pas à la limite, mais qui sont là pour faire de la densité, de synthé, pareil, enfin, ouais. De percus, de... En fait, il y a eu énormément d'ajouts de trucs qu'on jouait pas spécialement avant d'enregistrer les zik en studio, pour densifier tout ça, quoi, pour enrichir des passages où nous, on estimait que c'était pas forcément les passages les plus intéressants, et je pense que on a bien densifié le truc, quoi.
Mmh. Et c'est un peu ça, justement, le défi avec les lives. Bon, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi, là actuellement, on a un sidekick, entre guillemets, une sorte de cinquième membre pour les lives qui va être présent, bah, notamment dès demain, qui a justement ce rôle-là de pouvoir, pas réarranger le morceau, mais en tout cas leur donner justement des éléments supplémentaires pour retrouver ce son qui est un peu présent dans l'album, c'est-à-dire gros synthé ou une gratte supplémentaire pour s'autoriser un son plus épais, plus élaboré, plus d'arrangement en fait.
Et du côté des textes, quelles sont les grandes thématiques abordées dans cet album ?
C'est pour toi.
Ouais, c'est pour moi complètement. Alors, est-ce que je fais morceau par morceau ou est-ce qu'on dit... Alors, globalement, c'est des questions de société, souvent. C'est un peu des fictions autour de questions de société. On a quoi ? On a Tim Burr qui parle de réchauffement climatique, dans les grosses lignes. Dolores qui parle de... Chien méchant qui parle de harcèlement de rue. Voilà, c'est ce genre de... C'est souvent des sujets pas si légers que ça, en fait. Je crois que tout le sujet...
Space Sympathizer,
ouais, mais qui est un peu un truc caché, au final. Oui, Space qui parlerait de l'acceptation de l'autre, en fait. Du fait qu'on accepte l'alien qui arrive sur Terre et qu'en fait, ça devient notre pote et qu'on n'est pas dans le rejet, quoi. Voilà, je dirais que c'est des trucs comme ça, en gros.
Et donc, qu'est-ce qui les a inspirés, ces textes ?
Ouh.
En fait, on écrit tous les deux avec Basile et je crois que Basile... Moi, j'aime bien parler de trucs qui racontent rien, des fois, ça ne me dérange pas. Mais c'est un truc qui pose un peu plus de soucis à Basile et je pense que c'est des sujets qui nous travaillent en fond, en fait, des trucs dont on parle tous ensemble et forcément, ça ressort dans les textes, quoi. C'est pas spécialement... On se dit pas, tiens, on va parler de tel sujet, ça nous semble important. C'est juste celui qui écrit la musique, en fait, qui écrit les paroles, celui qui commence, et il trouve un thème un peu tout seul et puis souvent, ça parle à tout le monde dans le groupe.
Parce qu'il y a quand même une dimension assez engagée, mais c'est pas forcément donc une revendication de votre part ?
Non, clairement pas. C'est vraiment un truc qui est complètement naturel, en fait, je pense, pour Basile et moi. C'est assez compliqué déjà de trouver des idées de chant et des idées d'écriture. Donc, en fait, je pense qu'on se laisse tous les deux aller au plus simple, ce qui nous vient, en fait. Et ce qui nous vient souvent, c'est des trucs comme ça.
Vos préoccupations du moment.
Voilà, complètement.
Donc, cet album, il a été autoproduit. C'était un challenge pour vous ?
Oui.
La réponse est oui.
Soupir intense.
Ah bah ouais, en vrai ça a été un vrai challenge, surtout qu'on pensait qu'on aurait pu avoir un peu d'aide à droite et à gauche et finalement on a bossé pas mal seul, mais en fait on s'est pas mal habitué à bosser seul. Enfin, vu qu'on a vraiment créé le groupe de rien du tout, du haut de nos 18 ans, on a toujours appris un peu à se débrouiller tout seul.
On parle plus en termes de structure que de... Tu parles en termes de structure, c'est juste... Parce qu'on a eu quand même des mécènes, enfin des gens qui nous ont aidés financièrement. Je tiens juste à dire ça parce que on a quand même la chance d'avoir eu des gens qui ont pu nous donner de l'argent pour qu'on puisse faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire sinon.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai que sinon, on était un peu au-delà de ça, on était un peu tout seul pour le faire.
C'est surtout en fait dans toute tout l'aspect en fait organisationnel, etc. Que ce soit genre gérer les budgets, pouvoir envoyer les mails, etc. Contacter les gens. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites de nos propres petites pattes, entre guillemets. Et je pense qu'il était là le challenge, c'était que, en fait, même sans parler de musique, tout ce qui était autour de l'album, respecter les échéances, travailler avec plusieurs personnes, etc., c'était quand même une certaine dose de pression, finalement.
Ouais, c'était un autre taf à part entière, en fait.
Exactement.
Vous avez appris sur le tas, vous aviez déjà quand même un peu une expérience
Il y avait déjà une expérience qui venait justement de ce qui s'était passé auparavant. Mais moi, là, par exemple, cette année, c'est une année où justement je prends un moment de souffle dans ma vie. Et par exemple, de janvier à mars, presque tous les jours, j'étais sur mon PC à bosser pour le groupe, pour plein de tâches différentes qui n'était vraiment pas lié à de la musique, quoi. Enfin, qui est lié à notre musique, mais des trucs autour de la musique. Donc, c'est difficile.
Et on va faire un petit détour du côté de la DA. Sur la pochette et dans le clip donc, de Echo Process, on voit ce qui me semble être un masque de papillon de nuit. Donc, pourquoi papillon ? Et puis, plus généralement, quel choix vous avez fait donc, pour la direction artistique autour de cet album ?
Ouais, le papillon, c'est en fait, c'est une amie à moi qui a fait le masque. Et on cherchait des idées pour le clip. J'avoue que je sais même plus trop comment on a eu l'idée de ce truc là. Je sais pas si on est tombé dessus par hasard et qu'on s'est dit que ce serait chouette pour un clip, et c'était peut-être pas plus compliqué que ça, en fait. Il y avait pas vraiment de signification de base, mais il y avait un truc quand même hyper intriguant avec ce masque de papillon, un peu flippant, un peu enfantin en même temps, enfin un truc un peu chelou, quoi. Et moi j'avais envie de faire un clip avec ça, en tout cas, parce que je trouvais ça hyper marquant. Et aussi avec Basile, qui a des expressions faciales incroyables. Donc le duo des deux, c'était absolument génialissime pour réaliser le clip. Et ensuite, on s'est dit qu'on allait faire un lien avec la pochette. Et pareil, la pochette, on avait envie de faire un truc assez marquant. C'était un des trucs que Nathan avait soulevé, notamment quand on parlait de la direction. Et c'était de faire quelque chose de d'intrigant et de marquant quoi, quand on regarde la pochette, de se dire ouais, y a un truc un peu chelou quoi.
Bah, c'est les familles de pochettes entre guillemets qui parlent du premier coup d'œil quoi, qui se retiennent du premier coup d'œil. Et là l'idée c'était justement d'appuyer sur justement l'aspect écho entre guillemets avec une répétition et on a rajouté justement le petit côté extravagant avec toutes ces personnes chauves parce que ça nous faisait juste marrer et ça allait justement dans le côté marquant.
Donc, et puis c'était même une blague carrément, ouais. À la base Nathan a sorti ça comme une blague en réunion et puis en fait on s'est dit que ça pouvait être énorme quoi comme idée.
C'est ça.
Pour ce côté ultra marquant quoi justement et de ouais de duplication d'humain quoi, c'est mm-hmm. un peu stylé.
C'est ça.
Donc on va se plonger un peu plus dans cet album en faisant une nouvelle pause musicale et en écoutant Space Sympathizer.
We'll be right back.
C'était Space Sympathizer de Moon Backstage sur Radio Campus Tour, toujours sur le 99.5 FM dans l'émission Sortez. Et Clarence et Nathan sont avec nous. Donc ce titre, Space Sympathizer, c'est un titre plutôt engagé à propos d'immigration. Ça raconte quoi ?
Eh bien, tout simplement, c'est l'histoire d'un alien qui arrive sur Terre et qui vient faire du rock avec des humains, quoi. C'est vraiment... Je sais pas si tu avais plus de détails que ça, mais...
Le message de tolérance dont vous parliez tout à l'heure...
C'est ça, c'est juste... il arrive, il dit « Je vous veux aucun mal et je veux juste être là pour faire du rock, quoi. » Et puis les humains l'accueillent à bras ouverts.
C'est ça.
Pour ça. C'est quand même très très simple, mais...
mais c'est l'essentiel, hein, quoi. Tout simplement.
Mais les meilleures idées sont pas forcément les plus complexes. Hein.
Oui. Et ouais.
Est-ce que vous avez une anecdote lors de la réalisation de cet album ?
Ah, une anecdote lors de la réalisation de cet album. C'est pas facile, là.
C'est pas facile, là, j'ai plein de souvenirs qui me remontent, mais qu'est-ce qui est intéressant à raconter, par exemple ? C'est ça qui est... C'est de faire le tri.
Non, mais j'avoue que là, c'est... Là, j'avoue, je sais pas. Il y a quelqu'un dans le circuit pro, quand on lui a envoyé le mix pas final,
oui, c'est un peu drôle,
qui nous a dit « Bravo, super la maquette ». Donc voilà quoi, c'est pas qu'on l'a mal pris, c'est juste qu'on était un peu en mode bon, bah d'accord, ok.
Et surtout que nous on était trop contents, on était en train de se dire qu'on faisait un truc énorme et on envoie ça et on nous dit super la maquette, on se dit ah ouais, est-ce qu'on est pas en train de se gourer de chemin, ouais.
Mais après, ça a pris vraiment une autre direction justement.
Oui.
C'était les premiers mix et on pensait que c'était hyper bien et en fait, avec pas mal de recul.
Non, mais oui, mais c'était pas non plus.
C'était pas catastrophique, ça pouvait aller.
Mais suite à cette remarque, vous l'avez beaucoup retravaillé ou pas ? À quel point ça avait pu avoir un impact ?
En vrai, je suis pas sûr. Moi, dans ma tête, ça a rien changé, je pense.
Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille.
Ça t'a mis une petite pression.
Ouais. Bah, en fait, c'est qu'on on a commencé à envoyer les mix, les premiers mix, la version 1 ou 2, vers juillet, quelque chose comme ça. On a commencé à y avoir des retours en septembre. Et bah, pendant toutes les grandes vacances, Christophe, qui bossait sur le mix, enfin, n'a pas bossé sur le mix, il prenait des vacances. Et donc, du coup, ça s'est décanté. On a eu des premiers retours, etc., etc. Et on a notamment eu ce retour-là qui a dit, bah, pas mal la maquette. Et moi, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille en me disant, mais en fait, ça sonne comme une maquette. Et une ou deux semaines après, on a reparlé de ça avec Christophe. Et lui, il avait les oreilles un petit peu plus neuves. Et il a fait, c'est n'importe quoi ce qu'on a fait.
Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un peu une rupture. Hein,
ouais, et vraiment, il s'est dit, bon, on va tout refaire. Et il a dit, c'est la première fois que j'arrive à une V2, une V3 et que ça ressemble à rien. Et on est arrivé à certains morceaux en V5, V6, parce qu'il y avait besoin de refaire pas mal de trucs, en fait, de reprendre une autre direction pour quelque chose d'un petit peu, un peu mieux défini. Mais...
Peut-être qu'on est arrivé avec des idées qui n'étaient pas les plus claires de la Terre non plus. Ce qui nous a pas empêché de faire un truc dont on est hyper fier, mais peut-être qu'on a manqué d'idées de départ et du coup on a un peu pataugé dans le mix par moment, quoi. Puis c'est un exercice qui est pas simple non plus d'écouter un truc, à force de l'écouter ça devient notre référence et c'est très dur de se rendre compte de si les choses sont bien à leur place, si ça le fait, quoi.
C'est ça. Et aussi l'enregistrement en soi, vu que c'était avec quelqu'un avec qui on ne savait pas comment il travaillait, on n'avait pas forcément idée du niveau d'exigence par rapport à certains détails, des détails de frappe de caisse claire qui sont pas régulières. Normalement, on fait pas attention à ces trucs-là. Lui, il faisait attention à ça. Lui, ça l'a vraiment perturbé. Des détails liés au son de basse, etc. Et ça a fait que maintenant, on a ces trucs-là en tête. Vraiment, on sait que pour le prochain Scud, il y aura ces trucs-là à travailler.
Il y a toujours des trucs, mais...
Et c'est de la précision, en fait, finalement.
Oui, complètement.
Mais c'est ce qui fait qu'à la fin, c'est facile aussi pour tout le monde de bosser et d'atteindre un résultat qui fonctionne bien, quoi.
Et est-ce que vous avez fait cet exercice de réécouter vos anciennes EP avec ce bagage-là en tête et d'en faire un peu autre analyse et de se dire, tiens, punaise, on a progressé de malade.
Ouais.
Je sais pas si on l'a pas fait de manière ultra sérieuse.
C'était pas sous forme d'exercice.
Ouais, c'était plus. Je parle d'exercice, mais.
Mais oui, c'est clairement quand on retombe sur notre première EP, on se dit, enfin, on l'entend direct la différence.
On a envie de crever, quoi.
Après, je sais pas si on met le doigt sur absolument tous les détails parce que justement, ça nous fait pas tant plaisir d'écouter cette chose-là. Mais bon, après, c'est satisfaisant de se dire qu'il y a eu beaucoup d'évolution, quoi.
Ouais.
Ça fait quand même et en termes de musique et en termes d'enregistrement où la qualité est clairement, enfin, selon nos préférences à nous, c'est clairement mieux, quoi.
C'est même pas une question de préférence.
Oui, non, mais oui, objectivement, je pense que c'est mieux. Bah, il y a des gens qui aiment bien stopper quand même.
Mais vous avez envie de crever, mais il n'y a pas un espèce de regard sympathique en disant oh, c'était quand même cool, c'était les débuts et tout. Bah oui, on a fait du chemin depuis. Mais
Ah ouais, mais grave. En vrai, il y a des moments où on parle de ça et on pourrait avoir l'impression qu'on n'assume pas en fait nos débuts. C'est juste qu'en fait, stratégiquement, par exemple, bah, le premier EP il est plus disponible, mais c'est juste parce que en fait, ça, ce n'est pas bon d'avoir cette trace là aujourd'hui sur internet s'il y a un programmateur qui passe par là. Tombe sur ça, il fait sans faire attention à ce qui est à côté, ça peut arriver, hein. Et il peut faire bah ok, donc c'est ça Moon Backstage, bah je trouve que c'est bien gaze, mais et du coup, c'est pour ça qu'on a enlevé certains titres, mais en parallèle, c'est de là d'où on vient, quoi, c'est notre parcours, et moi je suis hyper fier de ça, je pense qu'on est absolument tous fiers de ça.
Oui, bien sûr, c'est qu'il y a un truc purement professionnel où il faut éviter de laisser traîner cette EP là n'importe où, mais quand on réécoute, il y a un peu de nostalgie et il y a encore des trucs qui. Par nostalgie, moi, peuvent me faire un peu kiffer, quoi, juste parce que c'est un truc qu'on a vécu.
Ben, c'est ça.
Ouais, c'est Seb. Ici, je suis à la Réal, mais je me permets une intrusion, ouais. Une intrusion de thug dans cette émission. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, même si tu dis que c'était bien gaze, gardez-les, parce que quand vous serez un groupe mondialement connu d'ici 15 ans, ça sera comme les inédits du Wu-Tang, c'est-à-dire que vous les sortirez discretos sur d'obscurs sites internet, et il y a des milliers de fans dans le monde qui s'arracheront le truc à des prix, mais de ouf. Et si vous avez ouvert un compte aux Seychelles, parce que apparemment c'est dans l'actu, hashtag bracelet électronique, ou aux Bahamas, eh ben, ça sera la folie. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, vous pouvez dire, c'est pas juste parce que c'est gaze, c'est une stratégie qu'on a assumée.
Tout à fait.
Finalement, exactement. C'est l'oracle qui a parlé, quoi. C'est
exactement. Vraiment... Bah, on te remerciera dans 10 ans, tu vois.
Se réalisera, j'espère.
Il y avait les regards qui se sont illuminés. Oh ouais.
Super idée.
Bah, on a compris Mauricien, que plus, les royalties, ça rapporte pas assez, mais par contre, de vieux scuds, des vieilles galettes, pourquoi pas, quoi. Et il nous en reste en plus, hein, des premiers vinyles.
Et pas qu'un peu.
Beaucoup trop. Ah bah ouais, pour plus tard, quoi.
Alors attention, on change un peu de sujet. Vous la trouvez toujours aussi dynamique, la scène rock à Tours?
Ah ouais. Ah par contre, là, vraiment, ça n'a jamais été autant dynamique, entre guillemets. Quand on a commencé à mettre un pied là-dedans, on l'a vu à travers les groupes que tout le monde connaissait, à l'époque Tevani ou encore le début des Stuff Foxes. Mais en fait, on se rendait absolument pas compte du passif, en fait, de toutes les personnes qui étaient là auparavant. Et en fait, plus on grandit, enfin plus on passe du temps, plus on se rend compte qu'en fait il y a vraiment tellement de trucs, il y a tellement de trucs justement qui restent à Tours et qui ne sortent pas de Tours, parfois par volonté. Et enfin tout ce qui se passe par exemple au Label Bleu, qui est un peu truc un peu bizarre, ou même les trucs de je ne sais quoi, qui sont vraiment pas de l'ordre du national, quoi. C'est vraiment très tourangeau. Moi, ça fait partie du dynamisme tourangeau, quoi, entre guillemets. C'est juste ça, c'est ultra inspirant, il se passe plein d'idées, il se passe plein de trucs intéressants, et ça, c'est vraiment superbe. Et après, il y a tous les trucs qui fonctionnent bien. Par exemple, les Stuffs ou encore les Mossai, qui sortent des scuds de fou. Et après, il y a les petits jeunes, quoi, qui arrivent. Enfin, entre guillemets, il y a plein de petits groupes de plus jeunes, de 22, 23 ans, qui sont en train de se former, qui commencent à faire leur premier concert, à sortir leur première galette. C'est pas fini, quoi. On est dans la continuité.
Bah, et puis il y a les écoles de musique qui brassent beaucoup de monde aussi.
Bah, grave.
C'est ça qui renouvelle aussi beaucoup. Ouais. En parlant donc de dynamisme autour de la scène rock, quelles sont les prochaines dates sur lesquelles on pourra vous retrouver?
Du coup, la fameuse Sabotage de demain soir, voilà. Release party, venez en masse, comme ça on pourra vous vendre des vieux scuds qui vaudront très très cher plus tard.
Ça, c'est le moment d'investir.
Voilà, c'est le moment. En plus, on va pas les vendre très cher. Et après, on fait une petite date à Laval dans un festival qui s'appelle le Bout de Ficelle le 31 mai. Oui.
À Don. D-A-O-N.
D-A-O-N, pardon, j'ai menti. C'est à Laval, ça?
C'est peut-être pas loin de Laval.
Ah, pardon.
Je dis ça parce que je me rappelle du nom, mais peut-être que c'est à côté en réalité.
Ok, bien joué. Et on fait
le. Votre géographie avec Moon Backstage.
Exactement. Et ensuite, on revient justement à Tours, tout simplement, région Tourangelle, pour faire le Before Doka. Au Foudre. C'est le 7 juin.
C'est ça.
Il y aura Nivek et Veuve. Ça va être un peu la deuxième release party, entre guillemets.
Ouais, bah, bon. S'il y a du soleil, ce sera forcément une super belle date, quoi.
Ouais.
Ça va être chouette.
Et s'il y a de la pluie, il n'y en aura pas, quoi. Enfin, il n'y aura pas de date.
Voilà, tout simplement.
Bon, on croise les doigts.
On pense évidemment à demain. Est-ce qu'il y a un événement à venir que vous attendez particulièrement?
un événement particulier.
C'est-à-dire, j'ai un pas concert compris. D'un autre groupe, par exemple.
Non, pardon, je pensais sur vos actus.
D'accord.
Donc il y a évidemment cette date de demain. Est-ce qu'il y a des choses, ouais, qui à venir, qui vous enthousiasment particulièrement?
Bah là, on va déjà essayer de terminer tranquillement les dates qu'on a fait actuellement, enfin qui sont prévues. Toute sur la partie communication autour de l'album, c'est en train de se tasser petit à petit. C'est-à-dire là, on a fait notre partenariat Ferrarock de la semaine. C'est un gros plus et un gros bon justement pour la visibilité du groupe. Mais le truc qu'on attend en fait, c'est surtout de recevoir les vinyles de notre Scud actuel, enfin des coprocess, qui prennent beaucoup de temps à arriver et qui vont partir après tranquillement en distribution avec l'autre distribution, complètement. Pour justement continuer un peu sur la com, puis voilà quoi. Puis ensuite, je sais pas, on va peut-être refaire de la composition après, tranquillement.
C'est,
quoi.
Oui, c'est vrai. Mais peut-être que l'événement qu'on attend, c'est de souffler un peu après cette énorme période.
Ah, mais oui, t'as raison, je crois.
Ce qui est pas rien quand même.
Non, mais c'est vrai, t'as raison.
Prendre le temps de refaire de la musique ensemble pour le plaisir et de sortir un peu la tête de ce truc massif.
Oui. Oh, c'est beau.
Ouais, je philosophe.
Donc peut-être que c'est pas le bon moment pour répondre à cette question, ça demande de se projeter un petit peu. Est-ce qu'il y a des collaborations que vous rêvez de concrétiser?
Ben en vrai si, ben, en fait il y a une collaboration qui a déjà été mise en place mais qui n'a jamais été concrétisée, c'est avec un groupe tourangeau notamment où il y a le frère de Clarent et pas l'inverse, Georges, parce qu'on dit souvent que Clarent c'est le petit frère de Georges, mais moi j'ai envie de dire que c'est l'inverse.
Oui,
plus ou moins.
Merci de me défendre.
Voilà.
J'ai besoin d'un grand frère comme toi pour me défendre.
Il n'y a pas de problème,
de
mon pote.
Mon grand frère.
C'est un groupe qui s'intitule Johnny Revolver, qui répète au label bleu et qui est sur la musique garage, expérimentale, qui nous inspire beaucoup. Enfin, ce sont deux personnes qu'on connaît depuis longtemps, surtout toi.
Oui, oui, complètement.
Et qui nous inspire tout simplement. Et donc, du coup, on a déjà eu l'occasion un peu de travailler ensemble. Mais on n'est jamais allé au bout de cette chose-là, et juste déjà à notre échelle et dans le faisable, parce que ça paraît faisable, c'est vraiment un objectif.
Oui, enfin, non, mais oui, ça pourrait être quelque chose qui serait cool. De très très chouette. Mm. Et puis en plus, on a des idées communes, et en même temps, on ne fait pas du tout le même genre de musique, quoi. Donc ça peut donner un truc qui serait assez intéressant pour nous tous, je pense. Mm.
Eh bien, je pense que c'est une bonne façon de conclure cette émission. Merci beaucoup, Clarent et Nathan, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci
à toi.
Donc, c'était Moon Backstage. Et on rappelle que donc, la release party de l'album, c'est demain pour la Sabotage Party, donc au Temps Machine, avec Keg et Devers. Cette fois-ci, je ne vais pas massacrer le nom.
Yeah.
Donc à 20h30. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux?
Oui, sur Instagram, sur Facebook. Ce qui paraît, on a un TikTok, mais je ne le savais même pas.
Arrête.
C'est le bordel.
Ouais, bon... TikTok, vous n'êtes pas obligé d'y aller non plus. Mais...
Et sur l'outil YouTube, évidemment, pour voir les clips, ouais. Notamment le clip de Clarent.
Et oui.
Et donc, ce podcast sera à retrouver sur radiocampustour.com. Et comme il nous reste un petit peu de temps, on va se quitter en musique en écoutant deux titres de l'album. Ce sera Chien méchant et Fuzz l'éclair.